Le paradis nous fait penser à l'attente d'une vie future après la mort. Comme si effectivement on devait vivre sur cette terre, mourir et ensuite ressusciter dans le paradis. Et on nous dit aussi que Pâques pointe là-dessus, c'est-à-dire que Pâques nous ouvre la porte du paradis. Eh bien d'abord, je n'en suis pas tout à fait certain pour tout vous dire, et d'autre part, je ne suis pas certain que le paradis soit exactement ce que beaucoup de chrétiens pensent. Et donc je voudrais que, aujourd'hui, puisque nous disons qu'il faut faire toute chose nouvelle, que vous fassiez aussi chose nouvelle dans votre foi. Alors, oubliez tout ce que vous avez appris au catéchisme, tout ce que vous ont enseigné les moniteurs et monitrices d'école biblique, et revisitons notre Bible pour essayer d'avoir une idée peut-être un peu neuve du paradis. D'abord, l'Ancien Testament. Vous savez, on dit, et je crois que c'est vrai, que dans l'Ancien Testament, on ne parle pas de résurrection. C'est-à-dire que l'Ancien Testament ne croit pas à la vie éternelle. Pour l'Ancien Testament, le problème, c'est comment on vit aujourd'hui dans notre vie. Et puis c'est tout. Et il n'y est pratiquement pas question ni de vie éternelle, ni de résurrection, ni de paradis. Et on nous dit que ça, c'est une chose qui apparaît dans le Nouveau Testament parce que c'est un grand progrès. Eh bien, je ne suis pas certain. Parce qu'il y a là quelque chose de très bizarre, admettez-le. Les Israélites ont passé, nous dit-on, 400 ans en Égypte. Or, les Égyptiens, ils sont très spécialistes de la vie éternelle. Ils avaient une vision du paradis extrêmement concrète. Vous savez que les pharaons, alors on leur mettait des pièces dans les poches pour qu'ils puissent s'acheter des choses à la buvette de l'autre monde. On leur mettait de la nourriture dans les sarcophages pour qu'ils puissent se nourrir. Et on mettait même dans les tombeaux païens des chaises pour que les morts puissent s'asseoir. Et donc on se rend compte que dans toutes les religions plus ou moins primitives, il y a toujours eu la croyance dans un autre monde, dans une résurrection et dans une vie après la mort. C'est quelque chose de constant, aussi bien en Égypte qu'en Mésopotamie, partout on a ces croyances-là. Alors quand on nous dit « l'Ancien Testament n'y croyait pas parce qu'il n'avait pas encore eu l'idée », je crois qu'on se fiche de nous. L'Ancien Testament connaissait très bien ces croyances. Et si l'Ancien Testament ne parle pas de la vie après la mort, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas eu l'idée, ce n'est pas parce qu'ils n'y avaient pas encore pensé, c'est parce que, et à mon avis ils avaient raison, ils ont dit « l'important, ce n'est pas la vie après la mort, l'important c'est déjà aujourd'hui comment vous allez vivre. Et l'important c'est pas de se projeter dans un autre monde hypothétique après, mais toute la question c'est aujourd'hui comment je vais vivre, comment je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois agir dans le monde et comment aujourd'hui je vais trimballer les paquets de ma vie, heureux ou malheureux. » Donc je pense que c'est très délibéré et très volontaire de la part de l'Ancien Testament que cette absence, je dirais, ce rejet, ce refus en quelque sorte d'une conception enfantine d'un autre monde dans lequel on revivrait dans un paradis hypothétique. Dans le Nouveau Testament, c'est plus compliqué. Certes, il y avait des croyances et des attentes dans un royaume futur, mais j'ai l'impression, en lisant bien, que Jésus semble lutter contre. D'abord, il y a une chose curieuse, c'est que quand je vous ai dit que j'allais parler du paradis, effectivement, vous vous êtes dit « ah ben c'est bien, il va parler de l'autre monde, du futur, du royaume de Dieu ». Or, le paradis dans la Bible, il est où ? Eh bien, il n'est pas futur, il est passé. Le paradis, c'est le jardin d'Éden, où il y avait Adam, Ève, le serpent et toutes les histoires là. Et donc, le paradis, dans la Bible, ce n'est pas le futur, c'est le point de départ. Et c'est même l'image, de l'idéal de la vie avec Dieu, l'idéal de l'homme qui vit dans la plénitude de la présence de Dieu, dans le jardin de délices et dans l'Éden. Et donc, le paradis, c'est ça qui est indiqué. Et puis, pour une raison que j'ignore, petit à petit, c'est devenu une sorte de projection dans le futur. Et donc, les Juifs, avec l'attente messianique, se sont dit, le paradis, c'est, eh bien, ce sera, quand le Messie va revenir, alors ce sera le paradis. Voilà, parce qu'on sera dans la paix, on sera dans l'abondance, ce sera extraordinaire. Et puis il y a les autres qui sont allés encore plus loin en disant le paradis, eh bien, ce sera après la mort, quand Dieu récompensera les justes de leurs bonnes actions. Et donc, petit à petit, les Juifs ont renvoyé le paradis dans un futur hypothétique. Et moi, je pense que Jésus, pratiquement sans arrêt, a tout fait pour lutter contre cette conception des choses. Et il a tout fait pour ramener le paradis dans le quotidien d'ici même, là, et pas dans une promesse future, pour le ramener ici. Tenez, d'abord, voilà, le Messie. Les Juifs, à l'époque, vivaient dans l'attente messianique. Ils se disaient, aujourd'hui, ça n'est pas bien, mais plus tard, Dieu va venir et va rétablir toute chose. Il y a un temps messianique qui arrive. Et Jésus dit, mais arrêtez d'attendre, les gars. Le Messie, il est venu et c'est moi. Et donc, c'est maintenant les temps messianiques. Nous sommes aujourd'hui dans le paradis, parce que moi, je vous l'offre. C'est pas pour demain, c'est pour tout de suite. Et donc, Jésus, finalement, c'est ça, une des bonnes nouvelles de l'Évangile. C'est de dire, mais ne vivez pas sans arrêt, je dirais par procuration, un avenir hypothétique. Il n'y a pas à attendre. Vivez maintenant. La chance extraordinaire d'être aimé par Dieu, de vivre avec lui, de partager avec ceux que vous aimez, de contribuer aujourd'hui à un monde meilleur, d'être les ouvriers de ce royaume de Dieu et de ne pas simplement attendre qu'il vous tombe dessus plus tard. Et c'est aujourd'hui que vous pouvez apprendre à aimer et à être aimé. Et je pense ainsi que c'est comme ça qu'il en est. Et d'ailleurs, toutes ces histoires de paradis, ce ne sont pas des promesses pour le futur ou pour après la mort, mais d'un bout à l'autre, l'Évangile met toujours ses promesses au présent. Au présent, on le voit, par exemple, tenez, dans l'une de ces trois occurrences du mot paradis dans le Nouveau Testament. Phrase qui a fait couler beaucoup d'encre. Jésus dit au larron sur la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors ça fait couler beaucoup d'encre parce qu'on s'est dit, ben, ça pose problème. Parce que si c'est aujourd'hui, Jésus, normalement, il doit attendre 3 jours avant de ressusciter. Alors pourquoi il ne dit pas dans 3 jours? Et même Jésus, d'après les croyances populaires, est ressuscité pendant 40 jours. Donc Jésus n'entrerait dans le paradis de Dieu que 43 jours après sa mort. Pourquoi dit-il aujourd'hui? Ça ne colle pas, vous êtes bien d'accord? Alors ça pose problème, et ce qui fait que, et d'autres en plus qui pensaient que de toute façon on est dans le paradis qu'après un jugement dernier à la fin du monde, et donc non, Jésus dit c'est pas à la fin du monde, c'est pas après un jugement dernier, c'est aujourd'hui, tout de suite. Alors les commentateurs cherchent 1000 ruses, et ils disent, ils changent la virgule, ils disent Jésus ne dit pas, je te le dis, virgule, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ils disent, je te le dis aujourd'hui, 2 points, tu seras avec moi dans le paradis. Mais ça, c'est des malhonnêtetés de commentateurs de la Bible. Jésus ne dit pas, aujourd'hui, je te le dis. Évidemment que c'est aujourd'hui qu'il le dit, puisqu'il le dit. Et donc, il faut être clair, c'est bien aujourd'hui la bonne nouvelle qu'aujourd'hui, il est dans le paradis. Et si aujourd'hui, il faut le prendre au sérieux. Le paradis, c'est aujourd'hui. Voilà, c'est pour vous aujourd'hui. Vous avez bien fait de venir, c'est vous aujourd'hui, ici, là, que le paradis vous est offert. Et ça, on le trouve partout, tenez, Zachée, ce petit bonhomme là qui veut voir Jésus qui monte sur son arbre, ça vous le connaissez bien. Et Jésus lui dit, aujourd'hui le salut est venu sur ta maison, aujourd'hui le salut, il ne dit pas plus tard, tu auras le salut après le jugement, aujourd'hui. Dans le Notre Père, vous dites, donne-nous, aujourd'hui. Le pain éternel. Il ne dit pas « tu nous donneras le pain éternel quand on sera mort et après le jugement dernier, quand on aura la chance peut-être d'entrer dans ton paradis, là tu nous nourriras de ton pain. » C'est aujourd'hui, donne-nous notre pain quotidien. C'est aujourd'hui qu'on a besoin d'un peu de paradis, ce n'est pas demain. Et c'est pareil encore, Jésus à la fin, Matthieu 28, 20, et il dit « je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il ne dit pas « je serai avec vous quand vous ressusciterez. » Et c'est tout comme ça, qu'est-ce que vous voulez, moi, plus je lis et plus je me dis que Jésus passe son temps à remettre les promesses au présent. Et même le royaume de Dieu, voilà. On dit le royaume de Dieu, c'est pour plus tard, mais pas du tout. La première prédication du Christ, les premiers mots qu'il a dit, la bonne nouvelle, c'est de dire « Le royaume de Dieu s'est approché ». C'est-à-dire le royaume de Dieu, non pas il viendra plus tard, mais il est là, ici, présent. Et c'est la même chose encore dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 24, quand Jésus dit « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle ». Et ça, on n'y prend pas garde, mais c'est un présent. Il ne dit pas « celui qui est fidèle, il aura la vie éternelle », mais il a la vie éternelle. Et donc la vie éternelle, c'est pour ici. Il ne vient pas en jugement, mais dit-il, il est passé de la mort à la vie. Pas il passera de la mort à la vie, il est passé de la mort à la vie. Et Jésus continue d'une façon intéressante, d'ailleurs il dit, en vérité je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est maintenant, parce que nous sommes tous un peu des morts spirituels, et c'est aujourd'hui qu'il y a une résurrection à laquelle nous sommes appelés. Nous sommes appelés aujourd'hui à passer de la mort à la vie, à passer du deuil à l'espérance, à passer de la tristesse à la joie, de passer du doute à la confiance. Et c'est ça la résurrection que Dieu peut nous donner. C'est donc maintenant, et il n'y a pas, je ne crois pas qu'il y ait une autre vie après cette vie, mais je crois, en suivant Jean, qu'il y a dans notre vie une dimension éternelle qui est plus forte que la mort. Il y a dans notre vie une dimension de vie éternelle qui transcende la mort et qui demeure pour l'éternité. Et ça, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'amour, du don et de la grâce. Je pourrais continuer encore les exemples indéfiniment, mais ainsi tenez encore un quand même, très important. En Luc 17, quand les disciples, justement, interrogent Jésus et lui disent « Mais dis-nous, le royaume de Dieu, alors, c'est pour quand ?» Et Jésus lui dit « Vous savez, le royaume de Dieu ne viendra pas comme ça, comme un événement historique. Mais, dit-il, et je cite, « Le royaume de Dieu, il est au-dedans de vous. Il est au milieu de vous. » Alors, suivant les commentateurs, on dit « Le royaume de Dieu, eh bien, il est en moi, parce que le royaume de Dieu, c'est tout ce qui en moi est uni à Dieu, et c'est tout ce qui en moi est de la foi et de la confiance en Dieu. » Soit d'autres disent « Il est au milieu de vous, c'est-à-dire dans l'assemblée, dans le fait de vivre avec des frères et des sœurs. » Mais peu importe, en tout cas, le royaume de Dieu, il est au-dedans de vous, au milieu de vous. Parce que le royaume de Dieu, c'est une petite confusion, ça aussi on l'apprend aux étudiants en théologie en première année, qu'il n'y a qu'un seul mot pour dire le royaume et le règne. Donc le royaume de Dieu, c'est aussi le règne de Dieu. Et le royaume de Dieu, il est présent chaque fois que Dieu règne. Et donc vous êtes dans le royaume de Dieu quand pour vous Dieu est votre roi. Et tout ce qui est en vous est justement dans le règne de Dieu, c'est-à-dire dans le règne de l'amour, de la tendresse, de la bonté, de la pitié, du pardon. Tout ce qui est en vous est dans ce règne du spirituel. Ça, c'est le royaume de Dieu qui est en vous. C'est cette dimension éternelle de votre vie que la mort n'atteint pas. Donc voilà, le royaume de Dieu, c'est maintenant. Et ce ne sont pas des promesses pour plus tard. Et le paradis, je crois qu'il commence aujourd'hui. Le paradis, c'est le meilleur que nous vivons aujourd'hui dans l'amour fraternel ou dans l'amour de Dieu et qui se prolonge éternellement parce que Dieu garde le meilleur et jette ce qui ne vaut rien. Alors reste que, pour être tout à fait honnête, c'est vrai qu'il semble qu'il y ait certains passages qui voudraient indiquer quelque chose comme une compensation. Dans les Béatitudes, par exemple, quand Jésus dit « Heureux ceux qui pleurent aujourd'hui, car ils seront consolés, heureux les pauvres, car… » etc. Ou encore au jeune homme riche. Après le jeune homme riche, quand les disciples disent à Jésus « Voilà, nous avons tout quitté pour te suivre. » Et il dit « Personne qui aura quitté ici maison, famille, etc. ne recevra pas dans le royaume au centuple maison, famille et autres. » Eh bien, je ne suis pas sûr, finalement, malgré ce que j'ai cru longtemps, qu'il s'agisse de promesses de compensation dans un autre monde. D'abord parce que, une fois de plus, si on regarde comment c'est écrit, Jésus ne dit pas « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu sera à eux », mais il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux ». C'est-à-dire que c'est encore un présent, voyez-vous. Donc ce n'est pas pour plus tard, c'est pour maintenant. Parce que les pauvres en esprit, ce sont ceux qui savent qu'ils ont besoin de quelque chose, ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle et qui savent qu'ils ne sont pas Dieu et qu'ils ont besoin d'un autre pour les remplir d'espérance, de joie, d'esprit et d'amour. Et celui qui est pauvre en esprit, le royaume des cieux est à eux parce que le royaume des cieux aura de la place pour s'installer dans leur cœur, tout simplement. Et donc ce ne sont pas des promesses pour un autre monde, ce sont simplement des réalités spirituelles. Et effectivement, quand on se, je dirais, si on se prive matériellement pour donner à un autre, c'est pas que Dieu nous le rendra au centuple dans l'autre monde, mais c'est qu'on gagne au centuple en joie, en amour, en bonheur, de donner, de partager et de vivre avec les autres d'une certaine manière. Et d'ailleurs, si vous lisez toutes les grandes paraboles, la parabole du semeur, du fils prodigue, des ouvriers, de la onzième heure, etc., il n'y a jamais de compensation, il n'y a pas une parabole de ces grandes paraboles qui soit comme ça. Et donc moi je crois que, en fait, on meurt comme on a vécu. Et la vie éternelle, c'est simplement la continuation de ce qui est éternel dans notre vie et du meilleur. Et d'ailleurs, la preuve de ça, pour vous convaincre encore plus, c'est ce passage que je vous ai lu tout à l'heure. La deuxième mention du mot « paradis » dans le Nouveau Testament. Et là, c'est Paul qui parle. Il dit « Je connais un homme », il parle de lui, qui au paradis a entendu des paroles. Mais Paul n'est pas mort à ce moment-là. Ça veut dire que pour Paul, le paradis, c'est ce moment extraordinaire de présence de Dieu, ce moment de prière, de révélation, où il comprend la parole de Dieu qui lui est donnée. Et pour lui, c'est ça le paradis. Le paradis, c'est quand on comprend qu'avec l'aide de Dieu, dans la présence de Dieu, eh bien, on a une source infinie de joie, de paix, de lumière, d'amour et de tout cela. Et c'est ça le paradis qui nous est donné. Le paradis, c'est d'être dans la présence de Dieu et de vivre dès ici-bas dans l'amour de Dieu. Ce même Paul, d'ailleurs, à propos de la résurrection, ne parle jamais de notre résurrection au futur, ou assez peu, mais sa formule habituelle, c'est de dire « Vous êtes ressuscité avec le Christ ». C'est-à-dire pas « Vous ressusciterez », mais « Vous êtes ressuscité ». Comme le Christ est ressuscité, vous de même, vous êtes ressuscité. Et je dis cela parce que, finalement, je crois qu'il y a un piège mortel à se préoccuper de la vie future. Et que, dans le fond, il a fallu que je me force pour parler de ce sujet. Parce que, naturellement, je me fiche complètement du paradis, de l'enfer et du purgatoire. Et je me fiche complètement de la vie éternelle. On verra bien, c'est vrai que j'ai une réelle confiance. Je crois que Dieu, de toute façon, fait tout bien et qu'après notre mort, ce sera très bien, pas de souci. Mais ce n'est absolument pas mon souci. Et je n'agis jamais en me disant « Allons bon, il faut que je fasse ça pour me gagner une meilleure place au paradis, si vous voulez. » Je crois qu'au contraire, se préoccuper de la vie future, c'est un piège mortel. Parce que les gens veulent faire leur paradis. Et c'est ça le problème. Parce que quand on veut faire son paradis, on ne vit plus dans le présent. Mais on vit dans une sorte de futur illusoire. On vit dans un temps hypothétique, comme quelqu'un qui, à chaque vacances, passerait son temps à imaginer ce que seront les suivantes et ne profiterait jamais de ses vacances, en quelque sorte. Donc si vous êtes en vacances, profitez de vos vacances. Vous verrez l'an prochain où vous serez, ce n'est pas le problème. Mais essayez de vivre ce qui vous est donné là. Et combien de chrétiens qui n'arrêtent pas d'attendre le paradis de Dieu, ne voient pas que Dieu est là, présent, et qu'aujourd'hui, il peut leur donner une joie extraordinaire et que le paradis leur est offert là tout de suite. Et ils n'en veulent pas en disant « Non, je veux celui de demain ». Ben, très bien, moi je veux bien vous faire des tas de promesses pour demain et ne rien vous donner aujourd'hui. Ça m'arrange, ça me coûtera moins cher et vous serez moins riche. La vraie promesse qui m'intéresse, c'est celle qui m'est donnée tout de suite. Et je pense qu'effectivement, celui qui vit toujours dans le futur ne vit jamais. Et il faut, dans notre religion, dans notre foi, comprendre qu'il faut apprendre à vivre bien le présent. J'ai même lu ça d'ailleurs récemment dans un livre écrit par un psychologue qui s'intéresse à la vie des enfants et qui disait « c'est bien que les enfants veuillent grandir, mais il ne faut pas qu'ils veuillent trop grandir quand même ». Parce que l'enfant qui se projette sans arrêt en se disant « Ah, quand je serai grand, je pourrai faire ci, plus tard, je pourrai faire ça », eh bien, passe à côté de son enfance. Et il faut à un moment donné être capable aussi de vivre le moment présent et de voir les merveilles du moment présent. Et que même si on a des difficultés ici, Dieu nous aide et nous comble de tous ses biens. Et c'est bien ce que je vous disais, ce messianisme. Ceux qui n'arrêtent pas d'attendre un temps messianique passent à côté de leur vie. Jésus nous dit, mais non, je suis le Messie et les temps messianiques, c'est maintenant. Et je crois que toutes ces religions qui renvoient vers le futur sont souvent des religions perverses. C'est-à-dire que ça finit toujours par dire soit privez-vous, sacrifiez-vous, supportez tout et vous serez récompensés après. Supportez tout, on vous récompensera. Dans ce cas, Marx aurait raison, la religion c'est l'opium du peuple, on promet aux gens n'importe quoi et en attendant on leur fait gober tous les problèmes d'aujourd'hui. Et je pense que on ne peut pas vivre sans arrêt sa vie par rapport au futur. Et que de ce côté-là, Pascal, avec son pari, a dit la chose la plus sotte du monde. Vous savez, en disant « je dois vivre aujourd'hui parce que si jamais je gagne la vie éternelle plus tard, etc. » Le pari de Pascal est une chose infiniment délétère pour notre vie. Il faut miser sur la vie présente. Et quand on mise sur la vie présente, on a en prime la vie future. Parce que c'est ce qu'on a de fort dans la vie présente qui reste dans la vie future. Ce n'est pas le pari de Pascal. La vie future, elle est faite de tout l'amour qu'on a vécu ici-bas dans cette terre. Elle est faite de toute la beauté, la grandeur de ce que nous avons partagé les uns avec les autres. C'est ça notre vie éternelle. Et on ne peut pas, le but de la vie, ce ne serait pas de se priver, de se sacrifier pour rien, uniquement pour gagner des points de paradis. Et d'ailleurs, Jésus est très clair là-dessus. Ce qu'il nous dit en Matthieu 6, 34, c'est « Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Donc le royaume de Dieu, ce n'est pas du lendemain. Voilà, encore une preuve, j'ai raison. Le royaume de Dieu, c'est aujourd'hui. Cherchez d'abord ce qui est aujourd'hui de l'ordre du règne de Dieu. Cherchez d'abord aujourd'hui cette dimension spirituelle que Dieu vous offre. Et d'autre part, il dit d'une façon encore plus, je dirais, brutale à un autre moment, « Qui veut sauver sa vie la perdra. » Qui veut sauver sa vie la perdra. Donc voilà, celui qui se préoccupe de son paradis a tout faux, tout faux. Celui qui se dit « J'espère que moi j'irai dans le paradis, que je sauverai ma vie auprès de Dieu », il a tout faux. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ça n'est pas ça, parce que la préoccupation du paradis, c'est une préoccupation fondamentalement égoïste. Et voilà. Si je pense à mon paradis, je ne suis pas dans l'Évangile, parce que l'Évangile, c'est de s'oublier soi-même pour penser à l'autre. Et je vois là celui qui souffre, et je vais l'aider. Je vois là celui qui pleure, et je vais le consoler. Celui qui a faim, je lui donne à manger. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça l'Évangile. Ce n'est pas de se dire « Oh là là, mais où est-ce que j'irai quand je serai mort ?» Si vous êtes dans cette question-là, vous n'êtes pas dans l'amour, ni dans le don. Vous êtes dans un égoïsme qui, à mon avis, est dangereux. Et je pense que finalement, l'Évangile, c'est bien ça, c'est de s'oublier soi-même pour offrir, pour agir. Faire en sorte que finalement, même notre vie ou notre mort n'ait plus aucune importance. Comme Jésus, tenez, qui va sur la croix, mais il ne se dit pas « c'est extraordinaire, je vais gagner une place sur le podium du royaume de Dieu ». Il meurt sur la croix pour nous, c'est tout, il n'attend rien pour lui. Et il vaut mieux vivre bien ici-bas sur terre, faire le bien, aimer, libérer, servir, quel que soit notre salut futur. Et j'ai entendu, et ça tous les grands mystiques le disent, il paraît, on m'a dit un jour que Sainte Thérèse aurait dit ça, elle, qui aidait les plus pauvres, elle a dit « si je devais renoncer à mon paradis pour servir les pauvres, je le ferais ». Mais évidemment, c'est ça l'Évangile. Si je devais renoncer à mon paradis pour servir les pauvres, je le ferai tout de suite. C'est le sens même de l'amour. Parce que qui veut sauver sa vie, la perdra. Le paradis, c'est une mauvaise préoccupation, et donc oubliez tout ça. Et je crois d'ailleurs que c'est aussi le sens de Calvin. Vous savez, on s'est beaucoup moqué de Calvin et de sa prédestination. Certes, je ne défendrai pas la prédestination, mais d'un point de vue psychologique, il n'avait pas tort. Parce qu'il disait aux gens, écoutez, arrêtez de vous préoccuper de votre salut. Dieu s'en est chargé, c'est réglé. Voilà, donc oui, paradis, d'accord, vous irez au paradis, voilà, vous êtes contents, vous irez, c'est réglé, c'est payé, c'est fait, votre place est préparée, vous serez heureux avec les anges, avec les qui jouent des flûtes à bec et des machins comme ça, tout va bien. Maintenant, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? C'est encore ça, et je crois que Calvin avait raison, la religion ne peut pas être une question de carottes et de bâtons, en se disant, si je fais ci, j'aurai 72 vierges dans un autre monde. Ça n'est pas possible, ça. Et d'ailleurs, les grands mystiques disent tous la même chose, même parfois d'une façon plus violente. Maître Eckhart, que j'aime beaucoup, dit la chose suivante. Il dit, si tu honores Dieu par des prières en espérant avoir la vie éternelle, en fait, celui que tu adores réellement, c'est l'objet de ton désir, c'est-à-dire c'est toi. C'est toi-même que tu adores et, dit Maître Eckhart, tu transformes Dieu en valet. C'est affreux. Et il a raison. Saint Augustin dit la même chose. Et donc voilà, ce paradis, finalement je parle longtemps pour vous dire qu'il ne faut pas en parler. Quant à la résurrection du Christ, eh bien, elle nous dit, je crois, la même chose. D'abord, elle est remarquable parce qu'elle est tout de suite. Ça m'a aussi toujours intrigué quand j'étais petit. Je me disais, mais normalement, la résurrection, c'est après, dans l'autre monde, après le jugement dernier. Jésus ressuscite tout de suite. Encore la même nouvelle. La résurrection, c'est pas pour après, c'est pour maintenant. Et Paul nous dit que la résurrection du Christ est le modèle de notre propre résurrection, qui nous montre le chemin. Alors voilà, nous fêtons Pâques aujourd'hui, et je vais vous demander, votre résurrection, c'est pour quand? C'est pour après, pour plus tard, après votre mort, jugement dernier, tout ça? Réponse, non. Votre résurrection, c'est pour tout de suite. C'est là, pour aujourd'hui, dimanche, à 11h19. C'est aujourd'hui votre résurrection. Parce que la résurrection du Christ, c'est la vôtre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous besoin de résurrection. Parce que combien il n'y a pas en nous de petites morts, je dirais de deuil, de difficultés, de doutes, etc. Et aujourd'hui, Dieu vient vous dire, eh bien moi je suis une force de résurrection. Accrochez-vous au Christ et il vous ressuscitera. Et donc cette résurrection, c'est celle-là qui vous est offerte aujourd'hui. Et heureux celui qui sait attraper cette résurrection que Dieu lui offre aujourd'hui, sans la rejeter en disant, je prendrai le prochain train, ou celle de plus tard, celle de demain. Mais la religion, ça n'est pas demain on rase gratis. La religion, c'est une promesse pour maintenant. Et donc Christ a vaincu la mort, Christ a vaincu le deuil, et il peut nous ressusciter de toutes nos morts et de toutes nos deuils, et de tous nos deuils. Et je pense que finalement, cette histoire de résurrection, il faut comprendre que la résurrection du Christ n'est pas un spectacle, mais que c'est un modèle. Et que c'est une bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle pour notre vie. Je n'ai pas beaucoup de goût pour le voyeurisme, ni pour la passivité. Et je ne vois pas que la religion soit de vivre les choses par procuration, et de se dire « Ah ben je suis bien content, hein. Dieu il a ressuscité Jésus et j'aime bien Jésus, donc ça me fait plaisir pour lui. » Ce n'est pas ça. La vraie question, c'est que Jésus aujourd'hui, il peut me ressusciter. Et si vous avez tellement écouté mon sermon que vous ne vous préoccupez même plus de votre propre résurrection, dites-vous que Dieu peut ressusciter votre frère, votre sœur, votre enfant, votre proche, et qu'il y a là une puissance qu'il faut arriver à saisir en quelque sorte. Et donc la question, ce n'est pas tant que Jésus est ressuscité, mais c'est qu'il est ressusciteur, c'est qu'il est ressuscitant. La résurrection, c'est un spectacle. Et le paradis, eh bien, Jésus nous y fait entrer, parce qu'il nous montre la voie. Il est comme le premier-né qui ouvre le passage. Jésus, il ouvre Il casse, je dirais, les portes du paradis et il nous ouvre grand la route vers la vie éternelle et vers le royaume qui, du coup, est là, ici présent pour nous. Et ça, on le voit partout. On nous dit le paradis est un jardin. Très bien. Où Jésus ressuscite-t-il dans l'évangile de Jean ? Tiens, dans un jardin. C'est curieux, ça, non ? C'est pas drôle ? Bon. On nous dit qu'au milieu du jardin, il y a un arbre, c'est-à-dire en hébreu, un bois. Où y a-t-il un bois planté au milieu d'un jardin ? La croix du Christ, qui est appelée bois, donc le même mot que l'arbre dans l'Ancien Testament. Et donc Jésus, qui est pris comme le jardinier, il est effectivement celui qui nous fait entrer dans le jardin. Approchez-vous du Christ, et sans vous en rendre compte, vous serez dans le paradis. Et c'est lui qui est l'arbre de la vie, tout simplement. C'est lui qui est la porte du paradis. Tenez, c'est ce qu'il dit aussi, il n'a pas dit ça Jésus, je suis la porte. Voilà. Il est la porte du paradis. Et il est aussi le chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Oui, cette résurrection du Christ, c'est cette voie qui nous ouvre et qui nous dit, la vie est possible, la joie est possible, et Dieu est plus fort que la mort, plus fort que la méchanceté, plus fort que l'injustice, plus forte que le doute, plus fort que les ténèbres, plus fort que tout. Il y a en Dieu une force extraordinaire qui peut tout ramener à la vie et tout ce qui est en nous également. Donc la religion, ce n'est pas pour demain, vous disais-je, mais c'est une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Christ est ressuscité, il peut vous ressusciter. Christ est la porte du paradis, ce paradis vous est ouvert, entrez-y et vous vous régalerez. Vous vous régalerez parce que, quelle que soit votre situation matérielle, il y a une infinité de délices à vivre avec le Christ. Et ce grand cadeau de Pâques, c'est justement cette ouverture sur le royaume, cette ouverture sur la vie éternelle. Et que Dieu et Jésus nous disent, voilà, j'ai ouvert la porte. Bon, il s'est un peu fracassé sur la porte en passant, mais il a cassé la porte de la mort. Et donc il y a aujourd'hui un chemin de vie, de lumière, de joie, de bonheur, de félicité, de paix, qui s'ouvre à nous et qui nous est offert gratuitement. Amen.